Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonjour. Les Poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. La semaine dernière, nous avons parlé de Vincent Calvé pour son livre « Six solitudes » paru aux éditions La Rumeur Libre. Nous allons continuer cette semaine avec Vincent Calvé, avec un autre de ses ouvrages dont nous avons parlé. Nous avons évoqué cet ouvrage la semaine dernière, « Ensauvagement », aux éditions Raphaël de Surtis, avec une préface de Grégory Ratto. Mais auparavant, je voudrais vous faire un signalement également d'une œuvre qui me semble être importante, c'est celle de Éric Dubois. Éric Dubois, qui fait paraître aux éditions Unicité, Nul ne sait l'ampleur, poème. Alors, Éric Dubois, il a été, nous avons eu le plaisir de faire déjà des émissions sur et avec Éric Dubois. Cette dernière publication me semble être une publication importante et je crois que nous allons en parler, j'espère, assez longuement, parce que Éric Dubois a vraiment le mérite. C'est un des poètes qui compte dans notre période. Il est né en 1966, Éric Dubois, il est né à Paris. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de poésie et aux éditions Le Manuscrit, Encre Vive. C'est par Encre Vive que moi, personnellement, que j'ai lu pour la première fois Éric Dubois, aux éditions Hélice, L'Harmattan, à Publinette, à Unicité. Alors Unicité, excellentes éditions qui ont actuellement, qui traversent une période financière un peu difficile, et je vous invite donc peut-être à voir sur notre site, il y a un appel aux dons pour ces éditions Unicité. Et puis acheter les livres des éditions Unicité. D'abord, vous êtes sûr, parce que c'est un bon éditeur, d'avoir toujours des ouvrages de qualité, et puis vous faites œuvre utile. Il a fait paraître également aux éditions Le Lys Bleu. Il est responsable de la revue de poésie en ligne, alors une revue de poésie en ligne qui s'appelle Le Capital des mots. Le Capital, comme le Capital de Marx, de Karl Marx, Le Capital des mots, alors qui était une période qui est allée de 2007 à 2020, et de l'association du même nom, Le Capital des mots, qui est aussi une maison d'édition depuis, je crois, 2015. Il est responsable de la revue de poésie en ligne Poésie Mag, et c'est surtout un blogueur, Les Tribulations d'Éric Dubois, et il est aussi l'auteur d'un récit autobiographique. Alors, nous avons fait une émission là-dessus, vous pouvez la retrouver sur le site lespoètes.site, c'est le nom du site, lespoètes.site. L'homme qui entendait des voix, excellente récit autobiographique, qui avait paru en 2019 aux éditions Unicité, et puis un roman, Lunatique, aux éditions Le Lit Bleu, et qui avait paru en 2021. Voilà. Alors, c'est un des figures de la poésie contemporaine maintenant, et Éric Dubois, et Nul ne sait l'ampleur, mais voici ce qu'en dit Pierre Gobel. Écoutons Pierre Gobel. Il dit « Nul ne sait l'ampleur ». Éric nous livre avec ce recueil les mots glanés entre 2021 et 2023. Glané, c'est bien le mot. On a le sentiment d'une déambulation entre désir et désillusion, entre raison et espoir fou. Mais il préfère transcender la peur de la mort. Pour cela, le poète a ramassé les mots au fil des jours. Il en a fait un chemin de basse intensité, se laissant conduire par eux, avec la science du slameur qu'il fut. Le slam, Éric Dubois. Il donne à réfléchir au fil entrelacé de nos destins. Il avance dans leur fragilité, dans une méditation inquiète, pour avancer sans crainte dans l'inéluctable du temps et de l'espace. Nous dit donc Pierre Gobel C'était, il a écrit ça chez lui, à Champigny-sur-Marne, en 2024. Alors, pour savoir ce qu'est ce livre, que j'ai beaucoup aimé, parce que je crois que on est de plein fouet là aussi avec l'univers mental, je dirais, d'Éric Dubois. Écoutons-le, nul ne sait l'ampleur. Entre l'éventail et le poignard, je choisis le poignard, qu'il me tue sous le sable des mots et des illusions. Je ne sais plus. Des soleils identiques, des souvenirs fragiles comme des parfums de fleurs dans la Provence occitane, des mots impuissants à dire dans les bruits des forêts primaires, avec qui et pourquoi, dans l'essence de l'être, les mille baisers des arbres et le tourment des rivières asséchées. Je partage avec la lumière l'envie de me reposer à l'ombre de quelques arbres, de porter au bout des bras des fruits magiques et des fleurs épiques. Je donnerai tout mon être à l'explication des sentinelles qui veillent sur tous les silos, aux esprits miraculés du bonheur, aux anges perdus de l'amour. Mais mon étoile est morte dans la seule galaxie que je convoitais. Nous qui sommes des marcheurs sans troupeau, ne désignons le verbe qu'après l'avoir précédé. Nous courons aux miracles sans vraiment les atteindre. Et notre peine est toujours comme les oiseaux figés dans l'estran. Éric Dubois, nul ne sait l'ampleur. Nous sommes faits d'amour, de vent et de nuit. Je te cherche entre les étoiles. Je sais, c'est un pensif. Tu éclaireras un jour mon ombre. Ce sera au mi-temps du départ. Ma tête est un reposoir, un écho pris de vertige, une flamme noire qui calcifie les oiseaux du paradis. En somme, une bête de scène entourée du halo fragile des projecteurs dans l'illusion que j'ai de moi-même. Ma tête est un reposoir pour un dieu absent, une tête d'épouvantail. Je voudrais être un feu qui brûle parmi les fauves et les déesses, une flamme ocre dans les mouvements des ciels, une voix têtue abondante d'une statue géante. La césure au cœur bref chante le pli quotidien. Les arts sont impuissants à contrer les armes. Pleine lune sur les océans, chatoie dans l'or vif, nul mot à l'endroit où saignent les larmes. Je ne sais rien de la nuit, qu'à part le vent, qu'à part les larmes, comme des oiseaux peureux. Je ne sais que la brume, les oscillations des vers et la fatigue des buveurs. Je ne sais rien de la nuit, que les ombres furtives le long des rues désertes. Alors je m'arrête un peu simplement pour dire que dans ces ces textes assez brefs, toujours bien ciselés, hein, Éric Dubois, c'est vraiment un langage qui est vraiment le langage de la poésie contemporaine, mais ce langage, il exprime toujours l'expérience du vécu. Et cette expérience du vécu, c'est un peu aussi l'expérience de mal-être. Je ne sais rien de la nuit, qu'à part le vent, qu'à part les larmes. Et la fatigue des buveurs. Il parle de la fatigue des buveurs. Donc on sent que là aussi il y a une expérience de ça. Et que, effectivement, aller chercher dans l'alcool, dans l'ivresse éthylique, un remède peut-être au mal-être, hein, entraîne aussi cette fatigue in fine, cette fatigue des buveurs. Qu'est-ce que je cherche dans l'alcool que mon propre néant, la pitié d'autrui, la fatigue et l'angoisse au bout du compte avec un calcul faux. Au bout du compte, sans princesse miraculeuse, sans cueillir les fruits de la nuit, dans les paroles envolées des autres buveurs aux illusions éthyliques. Voilà, il répond exactement ce que je viens de dire par ce texte, par ce poème qui est un poème d'une grande lucidité. C'est ça peut-être le paradoxe d'Éric Dubois. C'est à la fois cet envol dans une réalité qui est une réalité, je dirais, construite, poétique, une espèce de réalité rêvée, et en même temps, ce basculement dans la plus grande lucidité. Voilà. Et il alterne un peu avec les deux, oui, je crois qu'il intègre en définitive dans sa poésie, il intègre ces deux facettes. Et c'est ce qui en fait un poète, un grand poète, un poète vraiment intéressant. Par les ombres échevelées est passée la lumière dans son miroir clos de certitude. Là aussi, il a raison. Quand il parle du miroir clos des certitudes, mon Dieu, combien de nos contemporains se regardent dans leur miroir clos de certitudes aujourd'hui? Nostalgie, noce de lumière et de l'ombre qui agit comme une algue envahissante, qui épouse la forme des pierres lentes à vous confondre. Toute la nuit court dans les vagues, dans les bruits, atténués, entre des silences coupants comme des couteaux. Et la nuit est venue, tordre les draps, qui écument les larmes, en présence offerte des silences, mourir au bout des lèvres comme une cigarette qui consume tout. Voilà. Alors là, on retrouve peut-être un des thèmes qui avait été cher la semaine dernière à Vincent Calvé, ce thème de la solitude. Quand la nuit vient, et quand ce silence va se consumer comme une cigarette. Je ne sais du matin que son reflet qui glisse sur le miroir d'effet de ma mémoire. Voilà, on voit que les matins sont effectivement donc ces moments d'éveil. Et on s'éveille sur quoi? Ce qui dit très bien. Hein. On pense à quoi? On pense à ce qui s'est passé avant. Donc c'est la mémoire. On s'éveille toujours sur la mémoire. Et la nuit de briser les verres dans l'angoisse des rues, tuméfié par les idées noires dans l'anathème de l'amour, dans le chant décuplé des mouroirs. Voilà, poème noir quand même, hein. Tu méfies par les idées noires et puis le chant décuplé des mouroirs. Waouh ! Et la montagne de lumière, de s'ouvrir entre les cicatrices des mots et des hommes, et les dommages collatéraux des guerres et des chagrins de planter leurs ombres dans les chairs disparates des roses et des cimetières le long des jours et des nuits. Nul ne sait l'ampleur. Voilà, donc le poème qui est le poème phare donc de ce recueil, qui a donné le nom au recueil, Nul ne sait l'ampleur. Un très beau texte, hein. Des dommages collatéraux, des guerres et des chagrins. Et la nuit fragile emporte indocile nos rêves, nos îles, dans un battement de cils. Ce sera une nuit, comme une autre, mais ce sera la dernière. Les yeux remplis d'étoiles, ce sera une nuit, comme une autre, mais ce sera la seule, l'unique, solde de tout compte. Ce sera une nuit, comme une autre. Dans les draps blessés, dans le sang glacé, ce sera une nuit comme une autre, plus belle encore et plus jolie. Ce sera une nuit comme une autre, comme une dernière colère, une ultime prière. Ce sera une nuit comme une autre, mais que l'on n'oubliera pas. Dans le bruit des pas, par de la soie, par les autres qui se souviendront de vous, traçant ainsi la nuit avec des fils de soie. Voilà. Merveilleux texte aussi, qui en définitive est un appel à l'autre, que l'autre se souvienne que nous avons vécu, que l'autre se souvienne que nous avons été une lumière, que nous avons eu les yeux remplis d'étoiles. Voilà ce que nous dit Éric Dubois, et il a bien raison. Et puis l'obscur, le tintement des horloges, le souffle morbide des chouettes, la blessure ouverte des ligaments, et puis l'annonce. Dieu est dans la voix des morts, dans l'appel des singes hurleurs. Nous sommes des primates essentiels, et puis le soleil, la jarre et le vin. Alors voilà, il y a à la fois l'idée de Dieu, hein, Dieu est dans la voie, et puis le fait que l'homme est un primate comme les autres, enfin pas comme les autres peut-être, mais est un primate, c'est donc un animal aussi. L'homme est avant tout un animal, mais il a Dieu dans sa voie. Et puis il a aussi la jarre et le vin, hein, oui. Le ciel est une blessure, et le volet une cicatrice. Mes larmes retiennent la pluie, mes rêves marchent sur le fil. On sent Éric Dubois, toujours sur le fil. Entre ce moment d'irréalité, où il est dévoré peut-être aussi par ses rêves, et en même temps ses réveils avec cette lucidité qui est la lucidité des poètes, qui est terrible. J'aime la lumière du soleil, les stores baissées quand elles passent dans un ray d'éternité absolue. Mon amour, je t'aime. Je suis le projectile affamé d'amour et d'émotion qui va droit dans ton cœur. J'aime la pénombre nue et les corps allongés dans l'ombre des choses et des jours. Voilà. Donc il associe la lumière, bien sûr, avec l'amour. Tout est imbriqué dans le possible. Renoncer au monde, c'est renoncer à soi. Voilà. Quatre vers, hein. Tout est imbriqué dans le possible. Renoncer au monde, c'est renoncer à soi. Une chose énorme. Ouais. On pourrait renoncer à tout ça. Mais ça veut dire quoi, renoncer à tout ça? C'est renoncer à être, donc c'est renoncer à soi. C'est le pire de renoncer à soi. L'amour est malade entre les feux. Je suis un homme qui regarde le passé avec effroi et tendresse. Les nuages noircissent le tableau, le soleil est à point nommé. Et l'amour blessé dans les rivières, ombragé d'un été rêvé, la lumière, tant convoitée, tant cherchée. Voilà. La lumière, bien sûr, hein, c'est ce que recherchent tous les poètes, la lumière. La pierre sertie de l'ombre est une énigme supplémentaire pour mes yeux. Chaque pas que tu fais me donne du grain à moudre. Ta lumière guide mes mains. Je t'aime pour ce que tu es. Le phénix, le drap ouaté. Mais ce n'est qu'illusion, un flirt, un amour impossible. Aimer l'ombre, silencieusement, dans le cercle. Aimer l'écho, amoureusement, en partance. Et l'élan de plus, animal symbolique, dont la couronne de feu salue l'éternité. Et puis voilà ce qu'il écrit en 2021-2023. Voilà ce qu'il a écrit donc pendant cette période-là, ce que je viens de vous lire. Donc, Éric Dubois, à lire, il faut se procurer hein, ce petit recueil aux éditions Unicité. Il vous coûtera simplement la somme de 12 euros. Et vous verrez que dans ces vers, qui sont des vers courts, des vers ciselés, des vers où tout l'inutile a été enlevé, justement pour aller à l'os, ils ont raclé à l'os. Éric Dubois, nul ne sait l'ampleur. Aux éditions Unicité, donc 12 euros. Et maintenant, nous revenons à Vincent Calvé. Vincent Calvé, nous avons parlé la semaine dernière de son livre « Six solitudes hein. ». Ces solitudes qui traversent plusieurs périodes de sa vie, une période non plus difficile, une période de départ où véritablement il y avait un côté très très mélancolique, et puis petit à petit, une période qui va vers quelque chose de, comment dirais-je, plus serein, où la solitude est ressentie de façon moins intense. Avec Ensauvagement, Vincent Calvé, donc qui est publié aux éditions Raphaël de Surtis, Vincent Calvé donc nous offre autre chose. Et pour bien comprendre ça, nous allons lire la préface de Grégory Rateau de ce recueil Ensauvagement. Préface. Alors, c'est un recueil Vincent Calvé, qu'il a également illustré, puisque il est illustrateur, hein, il a commencé par la caricature, et puis, c'est un plasticien. Et donc, dans ce recueil Ensauvagement, ce sont ses illustrations. Préface. Au moment où les plateformes cherchent à tout prix la nouveauté, le bon ton du bon sujet d'actualité, où des visages botoxés d'une génération glorieuse sur le déclin peinent à nous émouvoir, Vincent Calvé décide de tourner son propre long métrage. Il choisit donc ses stars, en ressuscitant certaines au passage, somme toute les plus sexy. Son éclairage classieux, en mode expressionniste, avec toute sa palette de maquillage outrancier. Le voilà fustigé de rouge, non sans une certaine jouissance, les joues de toutes ces starlettes exhumées du passé, et n'hésite pas à la manière d'un Ed Wood, un peu dément, à chiner d'une pellicule à l'autre, d'un livre à l'autre, de faire à sa sauce en en tapissant les murs de sa chambre de collage surréaliste. Une fuite du réel dans le romantisme noir. C'est une manière de réfléchir cet ouvrage écrit dans l'urgence, mais travaillé à coups de découpage à la serpe, un vrai massacre baroque à rapprocher cette fois-ci de l'italien Dario Argento. Les illustrations de l'auteur viennent renforcer cette impression d'un patchwork chaotique. Elles ne sont pas de simples miroirs venus en renfort pour appâter le lecteur ou lui faciliter le travail. On peut y déceler la volonté de son auteur de montrer avoir l'envers, l'enfer du décor. Des esquisses presque infantiles d'une folie qui s'auto-analyse par ses propres moyens. Du noir et blanc, sans perspective, à la portée hautement judéo-chrétienne, sans doute liée à son indication, son passif, à des couleurs plus criardes, à la limite de l'art naïf, chargé de tous ses espoirs en devenir, car Vincent n'abandonne pas, il se recherche. Chaque recueil porte la griffe de ses multiples références, des frères d'armes tombés au combat, de ceux qui portent encore leur ambition à bout de bras. Il nous raconte précisément la misère de ces parias, de ceux qui se voient exclus des jeux romantico-érotiques, gardant l'échec et la tentation du mal par réaction, par frustration. Cette dualité est peut-être la sienne, qui sait, on se raconte toujours en racontant les autres, par pudeur ou simplement pour toucher au plus près de son sujet, il convoque ici le fameux topo du maudit. Une figure éculée, me direz-vous, mais éculée pour qui ? Aujourd'hui, le bon représentant en poésie gesticule et montre les dents pour attirer les foules, se réclamant des plus nobles causes, peu nombreuses certes, mais le combat n'en est que plus pathétiquement épique. Le spectateur distrait fait semblant de s'arrêter, bien souvent pour s'amuser de tant d'efforts déployés pour hurler des mots par trop passagers, mais se réclamant pourtant d'une puissante modernité. Vincent, lui, fait son petit pas de côté, un pas suicidaire s'il en est. Il creuse son sillon de lyrique, d'ouvrage en ouvrage, et cela même sous les injures et les colibés. Il préfère se parer de la peau des grands maudits, de l'autre et à Montarteau, le générique et limpide et la posture aussitôt rachetée par des aveux d'un enfant pris en flagrant délit de fraude. On navigue d'une vision du mal mythologique avec cette ironie grandiloquente du conte, un monologue métaphysique d'un désespéré à la limite du ressassement comme ceux que pouvait marmonner puis gueuler le terrible Momo dans ses moments de forme. La détresse est bien là, désespérée comme une triste prière mais incarnée dans le verbe, celui du poète, ou du moins de celui se rêvant une revanche par les mots, une revanche sur les humiliations vécues, les trahisons ou les inimitiés, le mal de reconnaissance sur ces femmes qui se sont sans doute refusées à lui. Pourquoi cette détresse ne trouverait-elle pas son nouvel écrin en faisant œuvre poétique ? J'entends déjà certains, certaines, crier au politiquement incorrect. Mais quel poète digne de ce nom ne serait pas politiquement remonté ? C'est tout le problème. consanguinité, consensualité. La poésie se meurt de faire la belle et non la bête. Voilà, écrit par Grégory Rateau, le 1er décembre 2023, à Bucarest, donc en Roumanie. Alors cette préface, elle est très très intéressante, à bien des titres. Hein. D'abord, il parle des recueils antérieurs. Chaque recueil porte la griffe de ses multiples références, des frères d'armes tombés au combat, de ceux qui portent encore leur ambition à bout de bras. Et donc, il fait référence donc à tous les recueils, dont celui de la semaine dernière, hein, « Six solitudes ». Et puis, il fait référence à une dualité, cette dualité que l'on a vue dans le poète antérieur, Éric Dubois, par exemple, le poète de « Nul ne sait l'ampleur », et qui joue aussi sur cette dualité en permanence. Cette dualité, où il se raconte toujours en racontant les autres, ce qui est, à mon avis, quelque chose d'inéluctable. On ne peut pas raconter les autres sans se raconter soi-même. Il y a aussi quelque chose qui me semble hardi dans cette préface, mais qui ne fait que répercuter l'hardiesse de Vincent Calvé. Vincent Calvé qui se donnait comme maître, Lautréamont, Artaud, hein, quand il parle du conte, là, cette ironie grandiloquente du conte, c'est bien entendu le conte de Lautréamont. Mais aussi ce petit coup de griffe que donne Grégory Rateau dans cette préface à ces poètes de la modernité actuellement, qui sont politiquement corrects. Bon, je crois que, sans vouloir vraiment dire du mal, mais quand on prend les éditions, par exemple, Bruno Doucet, on est dans ce style-là. Ces poètes, comment dirais-je, qui sont du clan du bien, bien sûr, et qui ont des causes très très belles, très nobles, etc., politiquement correctes, etc., mais qui oublient que la poésie, il faut se racler la gorge, des mots trop passagers, dit-lui, hein, pas trop passagers, mais se réclamant d'une puissante modernité. Alors le spectateur distrait fait semblant de s'arrêter, voilà. Ces poètes qui veulent, qui gesticulent et montrent des dents pour attirer les foules, mon Dieu, combien nous en avons vu de ces poètes, et je ne voudrais pas être insolent, mais franchement, on a vu ça aussi récemment, hein, au mois de mai, ces poètes gesticulant, montrant les dents pour attirer les foules, se réclamant des plus nobles causes, peu nombreuses certes, mais le combat n'est plus que pathétiquement épique, bon. Et lui, je crois que le poète total, comme Éric Dubois ou Vincent Calvé, parce que c'est un vrai poète, Vincent Calvé, il n'y a pas besoin de ça, lui, il va au-delà de ça, et justement, il dépasse tout ça. Il dépasse tout ça. Haute solitude. Lui, totalement seul parmi les cygnes, et sous l'infinité d'un ciel chargé de lumière fossile, tendre comme un dauphin égaré, chargé du poids de ses chimères et d'une engeance de monstres. Il dialogue toutes les nuits avec la femme à barbe, l'homme canon, l'araignée charmante, Laurent Bacal, la dame blanche et l'incomparable Bella Lugosi. Vous ne ferez plus d'accroc à cette porte, chère fourmi, dit Bella. Depuis longtemps, il a commencé à ériger cette haute tour d'architecture non euclidienne, dont les soubassements trempent dans la boue primordiale et les sommets qui ne cessent de grandir vers des hauteurs érotiques, vers les galaxies muettes, vers les comètes tendres, vers d'autres airs et d'autres solitudes, de longues mains d'argent battant les blés de la mort. on le suit du regard, au plus haut des échafaudages de cristal, linéaments, grêles et connexions cervelle, rendant un son mystérieux. Parfois, on peut entendre des opéras de Mozart ou des fragments de Debussy. Ce que j'ai mis entre vous et moi, c'est une barrière de livres dont les pages, anges gardiens cimentés, sont encore des fragments similaires, dit-il. Son identité fragmentée, n'existant pas, brille entre les branches des arbres. Par temps clair, on peut entendre sa voix chanter doucement dans les pierres. Entre vous et moi, il y a l'espace incommensurable du double sens et l'étoile brûlée, mes amis, vous que j'ai aimés et que j'aimerai toujours, murmure-t-il. Il tend une échelle à travers l'espace. Mes présences douces dans l'enfer des vides torturées, vous, belle jeune fille au regard de soi et à la voix tremblée. Il voit un sexe chaud et ample s'ouvrir lentement dans la chambre. Vincent Calvé, Ensauvagement. Une ville. Le poète, au cœur des villes effondrées, marche sur un fil invisible, aveugle et morne, comme un poisson des profondeurs. Singeant des vocables monstrueux à gueule d'ange, dans la lumière phosphore, le ciel rouge et gris, au-dessus des gouffres herméneutiques. Civelle, vous m'avez tissé un écheveau d'obsessions délicates qui font de moi le plus vertigineux des érudits, dit-il. Des notes de pattes dans la rue et la présence inquiétante de ça, le goitre qui connecte les planètes ombreuses, le grand poulpe dans la chambre d'un charmant jeune homme effondré et sublime. Quand la poésie compte ses ruines, le ciel est vertigineux et la folie est tendre comme une femme, dit-il. Il déploie ses ailes trouées pour couvrir la délicate figure, poursuivie entre les lignes par une forme qui boite et qui sent la fumée. Voilà. Alors, il y a dans le texte, quand on a la chance de lire le texte, d'avoir sous les yeux, il y a une mise en scène aussi de l'écriture dans l'espace. Par exemple, quand il dit « Le poète au cœur des villes effondrées marche sur un fil invisible, aveugle et morne comme un poisson des... » Alors, profondeur, il le fait, il l'écrit sur quatre lignes. P, puis plus l'autre ligne suivante, Rho, puis fond, et puis d'ailleurs, profondeur. On sent vraiment que l'on s'enfonce, voilà. Et c'est visuellement, quand on lit ce texte, on a aussi l'impression visuelle de la profondeur, voilà. Je voulais le dire pour, évidemment, puisque nos auditeurs ne peuvent pas... évidemment, c'est la manière de lire le texte qui va donner une idée, mais je voulais le préciser. Il y a un exergue de ce livre... Et ça ne vous étonnera pas tellement, on est là dans un temps du conte de Lautréamont, une citation des poésies de Lautréamont. Il existe une convention peu tacite entre l'auteur et le lecteur, par laquelle le premier s'intitule malade et accepte le second comme garde-malade. C'est le poète qui console l'humanité. Les rôles sont intervertis arbitrairement. Voilà. Donc on est prévenu, on est dans ce contexte-là, de malade et de garde-malade. Mais attention, c'est le poète qui console l'humanité. Et donc, on va intervertir les rôles. Et c'est aussi une des fonctions de la poésie, hein, d'être le garde-malade. Garde-malade des gens, garde-malade des sociétés, garde-malade des civilisations. Songe de Bela Lugosi. Bela Lugosi. Oh, nuit tendre comme une femme qui n'existe pas, belle et triste parmi les ruines comme une fleur qui n'est point éclose, et étrange comme les palmes vertes et noires au-dessus de ma tête. Il est un point où le songe et la réalité se confondent pour ne former qu'un long rêve paradoxal. Bela s'est endormie et sa voix caverneuse résonne parmi les péristyles et les figures géométriques. Et on voit d'étranges paysages romantiques, on entend gronder l'orage cyclamen. Endormi dans un labyrinthe de blême cervelle et chevelée, Bela se reconnaîtra peut-être au point où les différents plans du réel se rencontrent pour de sensuels séismes, ces multiples répliques portant des noms d'une solennité parfaite. Le futur est un chêne au feuillage infini dont l'interminable division de rameaux constitue notre réalité actuelle et mortelle. Les sirènes goules apparues dans le décor expressionniste se déshabillent et détachent leur chevelure sombre, les yeux verts d'émeraude dirigeant un funambule grotesque vers sa propre mort, singé par des miroirs obsidiens. Le présent n'est que la partie immergée de l'iceberg. Il suffit de tirer les fils pour retrouver la bobine, dit-il. Elle dévore l'azalée que Bela tient dans ses grandes mains élégantes et ridées, et le sang se répand lentement sur leur sexe douceâtre, fil un goût de cire. Le bel héroïnomane change l'orientation des lumières, tandis que la nuit sert des assiettes empoisonnées aux convives attablés avant l'heure, des longs parricides et des sauts dans le vide. Cantique, oh, Bela, sort par les rues mates de Los Angeles. En visite de routine dans les heures sombres, on peut voir son ombre sur la pellicule vieillie et son charme étrange à l'ombre des tonnelles. Belle jeune fille blonde et naïve, que n'avez-vous déplié ce mouchoir de flanelle? Et pour finir, comme nous n'avons plus beaucoup de temps, je vais essayer peut-être de finir sur ceci. Vision du poète. Ce que je voyais dans le ciel était à la fois une étoile, un bouquet de fleurs et une robe de mariée. Les choses n'existant plus, je les avais remplacées par des mots. Il n'est plus question de lit. Terrature. Dans cette dimension, mais d'une mutation perpétuelle, compénétration intime de tous les règnes, Chose rose, mauve, tendresse. Soit rotation, cycle, apogée, marelle. Lente déclinaison des verbes hypostase. Lamentaux funèbre. La lente entropie des schistes. Élif grandissant, accablant. Les ronces de ses épines venimeuses. Seul. Dans un pli du temps. Et, parmi les restes ionisés de l'instant. T'es sur les dunes de l'éternité, servi par Arthur et André. Langue noire, leur lente exhalaison sur le vague, et cette image fixe dans ma caboche, crie-t-il. Le nord, placé par des géographes, est une convention, et les directions de l'espace ne l'inquiètent, ne le sidèrent. Un long départ des navires splendides dans l'océan droite. Été que j'aime ton sourire de flanelle, hurle-t-il. Et le lierre de l'automne, le fracas des feuilles mortes et le poids de la neige sur ses paupières, les seins bleus et gonflés de lumière sur la terre grasseyante. Ouvrage d'un terne géomètre nommé Dieu, le monde. Si t'avais eu 10 jours seulement, t'aurais fait ça beaucoup plus drôle, gueule-t-il. Et on aurait bien ri dans les campagnes désolées, enflées de chimères. T'aurais changé les poissons en lune et les sirènes en poteaux télégraphiques. L'itération muette eût été lue aux brillants ormeaux, ceux qui tendent leurs miroirs scintillants de chênes et de citernes à d'autres silures, comme jeudi et vendredi se suivent irrémédiablement. Il sait qu'une voix lui parle dans la solitude désolée des machines inquiètes, mise en place d'un homme-machine, à la place du pantin éternel, insecte, comme l'ubique, et seul dans ses rouages. Il tentera d'arracher sa peau, mais rien ne viendra qu'un morceau de pensée blette sur la corde sensible de la nuit, périphérique, et son visage semblera ruiné comme la poésie, gît, périmé, dans les angles perdus de l'onglet mortel d'un livre. Vincent Calvé, Ensauvagement, préface de Grégory Ratto aux éditions Raphaël de Surtis. Vous coûtera 19 euros à lire sans attendre. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine. À l'écoute de Radio Occitanie, nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.